préservons notre audition. Renseignements, radiofrance.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Ils sont tous là, ils sont tous prêts. Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet et toute sa bande.
Oui, bonsoir, Didier de Marseille. Je suis en voiture et j'ai appris par l'intermédiaire de l'édition spéciale sur France Inter la mort de deux journalistes au Mali. Tout d'abord, merci d'avoir mis en place une édition spéciale pour ces deux journalistes. Parce que ce soir, nous avons que du football sur toutes les ondes. Et ça pollue les ondes, voilà. Et donc, j'étais très ému par la mort de ces deux journalistes. Et à bientôt, au revoir.
Bonjour à tous, Jocelyne de Pau. Voilà, je voulais, comme beaucoup de gens, présenter mes condoléances à tous les proches, dans toutes les appellations du terme, aux journalistes de RFI qui ont été assassinés parce qu'ils prenaient la liberté de penser. Salut.
Salut Daniel, salut les AMG. 87 migrants, essentiellement des femmes et des enfants, morts de soif après que leur camion soit tombé en panne au Niger, à la frontière algérienne après Darlit. Imaginez la souffrance de ces pauvres gens avant de mourir. Arlit, ça vous dit rien? Les quatre otages français libérés. Bonne nouvelle. Le 12 octobre de ce mois-ci, une manifestation de plusieurs milliers de personnes a eu lieu à Arlit, contre Areva. Silence radio. Circuler, il n'y a rien à voir. Pour en revenir à la mort de ces migrants africains, jusqu'à quand allons-nous nous barricader à l'intérieur de nos frontières? Même au Moyen-Âge, période obscurantiste s'il en est, le Seigneur ne laissait pas les serfs crever dehors en cas de coup dur. N'oublions pas que notre richesse provient d'Afrique et d'Amérique du Sud, continent exploité depuis plus de 5 siècles avec la mort de millions d'êtres humains. Honte à cette Europe-là. C'était Gilbert de Marseille.
Vendredi, 15h, pas de là-bas si j'y suis. Ah, enfin, quelle joie, quel bonheur. Enfin pouvoir redevenir crétin. Enfin plus de Daniel pour nous forcer à nous remuer les neurones. Enfin pouvoir regarder TF1. Ah mon Dieu, que c'est bon.
Alors, nouvelle assez étonnante en ce 1er novembre, jour de Toussaint. On vient d'apprendre que Jésus n'était pas juif, mais Jésus était norvégien. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Norvégien, ben oui.
Bonjour, là c'est un message pour répondre à la personne donc qui voulait qu'on l'on passe la chanson La Blanche Hermine de Gilles Servat. Je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant de passer une autre chanson de Gilles Servat qui s'appelle Les Prolétaires. Elle est encore d'actualité, sauf que les pétroliers, pour l'instant il n'y a encore pas un qui s'est ouvert le ventre, mais elle est encore complètement d'actualité. Quant aux réactions des Bretons, on peut s'apercevoir qu'effectivement, ils réagissent souvent très vite, très bien, très collectivement, mais souvent avec des contretemps. Exemple pour la Révolution française, ensuite exemple pour l'écologie, même si pour l'instant, ils ont voté très sérieusement à gauche. Donc, il y a un sentiment collectif breton qui les ferait bien d'être un petit peu plus élargi à l'intérêt collectif national. L'écotaxe, il la faut autrement, certes, mais il faut empêcher les camions de pouvoir profiter sur le dos de tout le monde des infrastructures qui sont payées par tout le monde. Le problème, c'est que pour prendre l'argent, ou on le prend à ceux qui ont des sous, qui ont fait des bénéfices, et c'est ça qu'il faudrait faire, ou on essaye de répartir les charges sur tout le monde. À bientôt, au revoir.
Bonjour Daniel, merci à toi et toute l'équipe pour les émissions. Alors voilà un sujet qui vous intéressera peut-être. Le quotidien britannique Daily Express lance une pétition pour dire non à l'afflux de Roms, de Roumanie et de Bulgarie notamment. C'est une pétition en ligne. Il y a aussi un coupon à remplir pour ceux qui n'ont pas l'internet et envoyer au journal. Bah oui, les Roms, c'est tous des pickpockets, ils volent à la tire et puis ils envahissent même les beaux quartiers de Londres, ça fait sale, tout ça. Bon, alors ça vous interpelle? Bon, je sais qu'il manque pas de Français qui applaudirait des deux mains. Hélas, en attendant, si ça intéresse l'Européen de Londres, on en discuter. Hein. Moi, je ne peux pas m'y rendre à Londres, et là, j'habite trop loin. Non. Mais s'ils veulent me contacter, c'est quand ils veulent. Merci, au revoir, je m'appelle Marie-Claude.
D'immenses bâtisses alignées au cordeau occupent de longues ruelles géométriques qui forment une sorte de tapisserie d'un camailleux jaune et ocre.
RFI, 27 juillet 2013, Ghislaine Dupont et Claude Verlon.
Ici, c'est le grand et riche quartier Aliou, devenu cité fantôme, très prisé des grands commerçants arabes, dont on dit que certains se sont enrichis dans tous les trafics, armes, hachiches ou cocaïne. Plus loin, le grand marché central est lui aussi vidé de tous ses commerçants. Pour se vêtir et se nourrir, il faut rejoindre le marché 2. Là encore, les deux tiers des boutiques, beaucoup tenues par des sonrailles, sont fermées. Le commerce fonctionne au ralenti, encalaminé par la fuite des habitants à l'intérieur du pays ou vers l'Algérie voisine. Les petites vendeuses de légumes font un rêve que l'élection de dimanche prochain puisse ramener l'ordre et la paix.
Donc elle dit que vraiment ils cherchent la paix, ils veulent la paix, ils ne veulent pas que leur village soit détruit, pas de guerre ou choses. Donc elle veut tout entier qu'il y aura la paix pour que les gens se retrouvent.
Quelques centaines de mètres plus loin, la petite épicerie qui vend de l'eau sortie du frigo, un miracle ici, est fermée. L'épicier prend des libertés avec les horaires. Le cocktail chaleur et ramadan ont raison des plus tenaces. Devant la porte, sur un petit banc, une vieille dame s'évante. Elle aussi forme le vœu qu'un président élu donne un nouveau départ à son pays.
Sans président, il n'y aura pas la paix. Il y a toutes sortes de problèmes. Il y a les problèmes de la sécurité. Il y a les problèmes d'eau. Je souhaite un prix Dieu que ça ira.
Délitement de l'État, absence de développement, élites irresponsables, la région de Kidal est la puissance au carré des maux du Mali. Ghislaine Dupont, Claude Verlon, Kidal, RFI.
Voilà, c'était le 23 juillet 2013 sur RFI. Un petit hommage à nos deux confrères assassinés. Un reportage au Mali, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Elle, reporter, lui, technicien. C'est une occasion de rappeler que si on comprend souvent la défiance grandissante envers les journalistes en France, il faut rappeler quand même qu'il y a des journalistes qui croient encore, qui font leur boulot formidablement à un moment où le métier se fragilise pas mal, où il y a une perte de confiance, parfois des professionnels eux-mêmes, dans ce métier, notamment dans le domaine du reportage qui est indispensable, le témoignage, c'est indispensable, on le sait, mais parfois il arrive qu'on oublie, par exemple, là je suis à Chicago, on vient d'arriver à Chicago pour une série de reportages aux États-Unis, et bien ici en 1905, un certain Upton Sinclair avait fait un reportage sur les abattoirs de Chicago qui a renversé complètement la vie de cette ville de Chicago à l'époque. Et si bien que ce journaliste et les journalistes qui travaillaient comme lui se sont fait appeler par le président de l'époque, qui s'appelait Theodore Roosevelt, non pas l'autre, mais celui-là, Theodore Roosevelt, muckraker, c'est-à-dire éboueur, c'est-à-dire fouille-merde. Eh ben, on se réclame de ce genre de journalisme. Minoritaire, c'est vrai, mais quand même, on s'accroche aux branches. Et nos deux confrères faisaient partie, en effet, de ces journalistes qui croient, qui pensent qu'il y a une utilité réelle à faire ce métier. Puis c'est une occasion aussi de parler d'RFI, qui est une radio très très utile, qui a été menacée et qui a son utilité, qui n'est pas assez écoutée en France, je pense, mais qui est une vraie fenêtre ouverte sur le monde et qui a une très grande utilité, vous le savez bien, en Afrique, où des journalistes inconnus ici sont des vedettes, des gens très très écoutés là-bas. Voilà, en reportage donc aux États-Unis, on vient d'arriver à Chicago. Pendant ce temps-là, on vous a laissé avec Gilles Perret. Gilles Perret sort mercredi son film « Les jours heureux ». Vous vous souvenez, « Les jours heureux », c'est le CNR, c'est les Glières, c'est des endroits où on est allé souvent avec des personnages que vous connaissez et que vous allez retrouver dans le film de Gilles Perret dont nous parlons aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut les AMG Angevin, rendez-vous mardi 5 novembre pour notre prochain Café Repère, consacré cette fois-ci aux alternatives possibles à la société marchande, avec les responsables de la Muse, notre monnaie locale, sans oublier le sel, 49, la ressourcerie des biscottes, les jardins partagés et autres luttes pour la gratuité. Allez, à mardi 5, 19h, toujours au bar Le Challenge. Ciao.
Jean Monestier, j'habite au Soleil près de Perpignan. Il est certain que on ne peut que se réjouir quand des otages qui ont été emprisonnés pendant des mois en plus sont libérés. On ne peut que déplorer aussi que des gens soient abattus froidement. Il s'agit d'êtres humains. C'est sûr qu'il n'y a pas tellement d'options affectives que de ressentir de l'empathie pour eux. Par ailleurs, il y a Areva. Et là, c'est peut-être pas tout à fait la même musique et nous n'aurions peut-être pas tout à fait la même empathie. Alors, ceux qui veulent se renseigner sur les coulisses des travaux effectués en Afrique peuvent lire avec bénéfice le livre « Areva en Afrique ». de Raphaël Granvaud, G-R-A-N-V-A-U-D, Areva en Afrique, sous-titre « Une face cachée du nucléaire français », édition Agone, collection Survie. C'est très intéressant et c'est pas du tout le climat victimaire que l'on ressent en entendant parler les médias des histoires d'otages et de personnes malheureusement abattues comme rien, quoi. On ne peut que le déplorer.
Bonjour à tous les AMG, plus particulièrement aux AMG brétiliens et brétiliennes, pour vous annoncer la naissance d'un café repère à Liffré, au bar L'Entretemps, avenue François Mitterrand, au centre-ville. Delphine et William nous accueilleront chaque deuxième mercredi du mois. Notre premier repère aura donc lieu le mercredi 13 novembre. Nous ferons connaissance et nous verrons ensemble comment pérenniser notre repère. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Liffré, c'est une petite ville qui est située à 20 km au nord de Rennes par l'A84 en direction de Caen. Donc n'oubliez pas ce rendez-vous très important, mercredi 13 novembre à 19h à L'Entretemps à Liffré. C'était Pascal.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas, si j'y suis avec Gilles Perret, les jours heureux.
Flight number 2, arriving from New York.
Résistance d'hier, résistance d'aujourd'hui.
Charles Palland.
À côté de ce monument à la gloire.
Résistant.
Des combattants du plateau des Grières.
Mai 2012.
Que nous disent ces héros? Ils nous disent, nous ne sommes pas morts, nous vivons en vous qui poursuivez les luttes pour l'émancipation humaine. Un homme, disait Maxime Gorki, ça sonne fier. Soyons fiers d'être des hommes.
Créer la sécurité sociale qui permet à chacun de cotiser selon ses moyens et d'être soigné selon ses besoins. Faire en sorte que les personnes âgées, après une vie de labeur, puissent toucher une retraite décente. Démocratiser la vie des entreprises en faisant des syndicats, des partenaires sociaux à part entière. Offrir aux citoyens un vrai service public digne de ce nom, avec une vraie fonction publique digne de ce nom. Construire une presse libre pour que le peuple ne puisse plus être soumis, comme sous le régime vichiste, à des torrents de propagande. Écarter les grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie, etc., etc. On est en pleine utopie, en pleine rêverie, en plein délire. Ce qui permet de dater ce que je viens de lire, c'est régime vichiste, comme sous le régime vichiste. Ce que je résume là, ce que je lis là, c'est l'essence même, le but de des jours heureux. Ce texte court, célèbre maintenant, écrit par le Conseil national de la Résistance en mars 1944. Or, cette histoire et les protagonistes de cette histoire sont un certain nombre d'entre eux les protagonistes du film de Gilles Perret qui sort ces jours-ci.
Le 6 novembre.
Quand l'utopie des résistants devint réalité. Gilles Perret, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce qui est bouleversant dans le film, la première chose qui frappe dans ce film, c'est que pas mal d'entre eux ont disparu depuis et qui sont tous là quand même. Enfin, beaucoup sont là quand même.
Tout simplement parce que c'est un projet que je tiens depuis un petit moment maintenant. Hein. Ça fait suite à un premier film que j'avais fait, Walter Retour en Résistance, aussi au rassemblement annuel au plateau des Glières. Et donc du coup, je m'étais dépêché de recueillir les témoignages de gens qui ne sont plus là aujourd'hui, comme Raymond Aubrac et Stéphane Hessel, sachant que effectivement, ils étaient déjà très âgés. Et donc il y avait urgence de recueillir ces témoignages, d'autant plus que cette histoire-là du Conseil national de la Résistance n'a jamais été racontée avant. Quoi. Et voilà, c'est pour ça qu'on les retrouve dans le film, alors qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui.
Le Conseil national de la Résistance, c'est vrai que ça a été une histoire et un moment longtemps, peut-être pas occulté, mais longtemps négligé, on va dire. Et c'est en 2004
qu'il y a eu un appel de ses anciens, de ceux qui étaient encore là, à commémorer, à revenir sur ce moment. Finalement, beaucoup d'entre nous ont redécouvert ou découvert à ce moment-là ce qu'a été cette histoire.
Oui, moi le premier, hein, c'est vrai qu'avant 2004, je connaissais absolument pas cette histoire-là, et ça a pour moi été une révélation. C'est-à-dire, tiens, les résistants faisaient de la politique, en gros. C'est-à-dire, moi, la résistance qu'on m'avait racontée, c'était celle des faits d'armes, celle à la gloire de tous ces hommes et ces femmes qui se sont battus, les armes à la main, courageux, grands, etc. Mais par contre, la pensée politique qui accompagnait leur action, celle-là, on nous l'a jamais enseignée, on me l'avait jamais racontée. Et quand j'ai découvert cet appel de 2004, je me suis dit, mais bon sang, bien sûr, on se lève pas un matin comme ça, on va pas prendre un fusil comme ça tout d'un coup par une révélation divine. C'est parce que derrière, il y avait une construction politique et une envie de construire un monde meilleur, de changer la société, et puis surtout de mettre en place des règles qui permettront de pas revivre ce qu'ils avaient vécu dans les années 30.
Ambroise Coinsin, ministre communiste du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs.
Les jours heureux.
Il rétablit le principe de la semaine de 40 heures.
Un film de Gilles Perret.
Il supprime l'abattement de 10% sur les salaires des femmes. Aux jeunes travailleurs, 3 semaines de congés payés. Pour les mères, prestations familiales doublées, allocations prénatales, primes à la naissance plus fortes et plus nombreuses, primes d'allaitement doublées.
70 ans après, ce qui fait encore la particularité française, l'originalité française en matière des droits et des acquis que je viens d'évoquer, on leur doit. Même si, évidemment, toute l'affaire depuis 30 ans environ a consisté à lutter contre ces acquis inspirés et issus de ce CNR, et on les voit peu à peu se déliter, se détruire peu à peu sous nos yeux, avec un combat que mènent certains qui ressemble bien souvent à un combat d'arrière-garde. Mais enfin, s'il reste encore quelque chose, et quand même des beaux restes,
oui,
faut quand même pas tout noircir. C'est pas tout à fait une exception française, mais presque.
Oui, c'est sûr que c'est un peu une exception française dans le sens où c'était allé vraiment très loin, tout simplement parce que l'exemple français de la collaboration était assez seul, finalement, dans l'histoire de l'Europe. Et donc, du coup, ce qui fait que, comme il y a eu cette collaboration à la fois de la part des forces de droite et du patronat massive, ils n'avaient tellement pas accès, pas voix au chapitre à la libération, que forcément, le rapport de force était très, très favorable aux forces progressistes. Et donc, du coup, ils sont allés très loin dans la mise en place de ce programme, ce qui était un peu moins le cas dans les autres pays européens, mais on leur doit encore énormément de choses. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, on en bénéficie tous les jours. Et si vous allez faire un sondage dans la rue, voir un petit peu ce que les gens savent quant à savoir d'où vient la sécurité sociale, des retraites par répartition et tout, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que personne connaît cette histoire-là parce qu'on l'a pas racontée. On n'a pas eu intérêt à la raconter pendant très longtemps. Et ceux qui auraient eu intérêt à la raconter, c'est-à-dire quand les forces de gauche sont arrivées au pouvoir dans les années 80, en fait, on se rend compte que les gouvernements de gauche ont été autant à la manœuvre que les gouvernements de droite pour déconstruire ce programme du Conseil national de la résistance. Donc, du coup, ils n'ont pas raconté non plus cette histoire-là. Et pendant les périodes du gaullisme, il y avait une figure qui sortait, c'était De Gaulle, et on parlait pas des questions sociales.
Assez, messieurs, assez. En grève.
Monsieur le chef, ma voix s'élève pour vous annoncer sans façon que nous allons nous mettre en grève. Ce que nous voulons, nous l'aurons.
Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
C'est pas assez.
Comment ? Alors, voulez-vous être augmenté de 1000 francs ? Vous acceptez ?
C'est pas assez.
Mais l'argent, on s'en fiche, nom d'une pipe. Chef, mais c'est une question de principe.
Alors, voulez-vous un an de repos et le droit de parler argot ?
C'est beaucoup trop.
Vous protestez, et pour quelle raison ?
D'abord, parce que c'est la mode. Et puis pour embêter le patron.
Ah, c'est comme ça. Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
Gilles P. Perret, Les jours heureux, quand l'utopie des résistants devint réalité, il y a ce titre merveilleux de ce texte, Les jours heureux. Qui a eu l'idée de ce titre ?
Alors, c'est un représentant du mouvement Libération qui, pendant la rédaction, s'est référé à un film, en fait, qui était une histoire d'amour avec un aviateur anglais qui était sorti au cinéma. Et lui avait vu ce film-là et, au-delà de l'anecdote, il a voulu donner le titre Les jours heureux au programme, mais que des gens, dans une période aussi noire, décident d'employer ce terme-là, les jours heureux, pour intituler un programme politique, c'est dire le degré d'optimisme qui régnait et qui voyait que ça allait être possible et qui y croyait vraiment, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quel parti politique intitulerait son programme politique Les jours heureux, je vois pas trop.
Et c'est un petit parfum de Front Populaire, hein, les jours heureux. Ça rappelle, ça refait un lien avec la période précédente.
On était 7 ans hein, après le Front Populaire.
Finalement, donc, voilà.
Les idées, quand ils commencent à rédiger leur programme, évidemment, ils ne partent pas d'une feuille blanche et ils sont encore évidemment très inspirés par tout ce qui s'était passé au moment du Front Populaire.
C'est un beau film, très pédagogique. Hein, on commence par raconter l'histoire. On suit vraiment le déroulement, comment on en est arrivé à ce texte et comment on va rencontrer ceux qui l'ont élaboré, les protagonistes, les acteurs de cette histoire. On commence avec une histoire de la résistance, avec Jean Moulin.
Oui, c'est ça, hein, puisque finalement, l'homme qui a créé le Conseil National de la Résistance, c'est Jean Moulin, qui était donc une personnalité de gauche, qui finalement a fait un état des lieux de tout ce qui pouvait être considéré comme résistant à l'époque, même s'il s'appelait pas comme ça, de la France, et il est allé voir le général de Gaulle pour lui dire, voilà l'état des troupes sur le sol français, qu'est-ce qu'on fait? Et donc ils ont discuté, ils ont décidé d'unir toutes ces forces, tous ces mouvements, et ensuite passer à une deuxième étape, c'est-à-dire de intégrer au sein du Conseil National de la Résistance, les partis politiques clandestins, puisque tout ça se fait évidemment dans la clandestinité. Alors ça, c'était, tout le monde n'était pas d'accord, parce que les partis politiques de la Troisième République, c'était lamentablement vautré, soit dans la collaboration, soit dans la politique politicienne, et si bien que beaucoup de résistants voulaient absolument plus entendre parler d'eux. Mais bon, ils ont quand même réussi à faire accepter que les partis politiques soient autour de la table, et les syndicats. Ce qui fait que finalement l'image du Conseil National de la Résistance, c'était la France républicaine clandestine et qui se rangeait sous l'égide du général de Gaulle. Ce qui a fait que c'est grâce à ce Conseil National de la Résistance que de Gaulle a pu gagner son bras de fer pour s'imposer comme un interlocuteur face au général Giraud, qui était soutenu par les Américains et les Alliés. Et le général Giraud étant pétainiste et ayant débarqué en Afrique du Nord et qui continuait d'appliquer la politique de Pétain, et ça posait pas trop de problèmes aux alliés à ce moment-là. Et donc de Gaulle a réussi à gagner ce bras de fer et a pu, c'est ce qui a fait que la France a pu compter après la libération à la table des négociations.
Le général de Gaulle va parler à la France et Paris tout entier l'écoute et l'entend, groupé autour des haut-parleurs qui vont porter la voix désormais familière à la ville tout entière, au pays et au monde.
La France, elle veut faire que dans tous les cas l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général.
Général de Gaulle.
De les grandes sources.
Septembre 1944.
De la richesse commune soit dirigée et exploitée non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous.
Le dialogue a été brutal, dur.
Alexandre Parodi.
J'ai menacé 2 fois de me retirer.
Délégué du général de Gaulle.
Et de rompre ainsi l'unité nécessaire de la résistance.
On s'est ressaisi et finalement, on a voté.
Jacques Debut-Bridel.
Et la trêve.
Membre du CNR, Parti Fédération Républicaine.
A été repoussée à 1 voix de majorité.
Au fond, nous considérions que.
Claude Bourdet.
Il y avait un parti politique qui résistait, c'était le Parti communiste.
Membre du CNR.
Il y avait un autre qui, tout en n'ayant pas en tant que tel d'activité résistante.
Mouvement combat.
Avait tellement de membres et de dirigeants dans nos mouvements et dans les mouvements de zone nord, c'était le Parti socialiste, qu'on pouvait considérer que c'était un parti résistant lui aussi. Puis pour le reste, ça n'existait pas. Les autres n'avaient pas d'existence résistante. C'était des partis d'autrefois. Alors, on n'était pas du tout chaud quand Moulin a commencé à venir nous parler de la nécessité de constituer un agglomérat qui comprendrait aussi les partis.
Ce que ça raconte aussi, ce qu'on voit très bien dans le film, c'est exactement ça, c'est-à-dire toute l'exigence, le souffle utopique, moral, l'horizon, le possible, etc., tout ce qui nous fait toujours vibrer aujourd'hui, mais en même temps, effectivement, les calculs politiques, les rapports de force, les opportunités, les opportunismes, les coups de dés, les coups de bluff, il y a ces deux plans, quoi. Un plan moral et un plan politique.
Bien sûr.
Et qui interfèrent très souvent, mais qui ne sont pas présentés comme ça. Généralement, on se contente du premier. On a tort souvent parce que c'est pas toujours uniquement sur le plan moral que les choses se passent.
Évidemment, et puis d'autant plus dans notre société où justement on baigne un petit peu dans la culture du consensus, de la belle histoire et tout. Mais l'histoire du Conseil national de la Résistance, c'est un peu l'antithèse de ça. C'est dans le rapport de force que ça se passe, dans la stratégie. Imaginez-vous un petit comité comme ça de gens, parce qu'il ne s'agissait pas de se réunir à 16 en permanence, ils n'ont fait qu'une seule réunion où tout le monde était là, mais après ils étaient à 5 et chacun avait des délégations pour 2 ou 3 personnes. Donc le rapport humain est très important, mais le rapport de force aussi. Et c'est intéressant de voir que quand on est dans le rapport de force, chaque version du programme, elle est plus ambitieuse que la précédente. Nous aussi, on était dans aujourd'hui où on baigne dans cette culture du consensus, hein, comme François Bayrou qui veut mettre toutes les forces politiques autour de la table, et puis on va faire un grand machin bien gentil. Chacun mettrait de l'eau dans son vin, on arriverait à un consensus et on arriverait à un programme nul, quoi. Enfin, le truc qui sert à rien. Là, comme chacun gardait ses positions, et notamment quelqu'un comme Pierre Villon, qui était le représentant du Front National de l'époque, et du PC.
Oui, Front National de l'époque.
De l'époque, hein, c'était donc
du Parti communiste. On oublie ça, qu'il y a eu un Front National pendant la résistance, Front National communiste.
Ouais. Et donc ce gars, Pierre Villon, que personne ne connaît, mais c'est lui qui met le point final à ce programme, qui est un gars formidable, quand il met des annotations sur les différentes versions du programme par rapport à ce qui est pondu par les autres, c'est assassin, c'est-à-dire c'est dans la radicalité. C'est on ne lâche rien. Et quand on lâche rien et que on tient un cap, on arrive à quelque chose qui est très très ambitieux. Et ça, je crois que c'est une bonne leçon par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Le motif de base de la résistance,
Stéphane Hessel,
c'est l'indignation. Et je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé.
Gilles Perel, le film, votre film, Les Jours Heureux, sort le 6 novembre. Vous l'avez déjà présenté, selon votre technique habituelle, votre stratégie média habituelle,
marketing
oui, habituel. Oui. C'est-à-dire que vous faites des films et vous les présentez d'abord dans votre coin, là-bas, dans votre Savoie.
Oui.
Comment c'est reçu? J'imagine que la première question qui se pose après la projection, ça doit être, oui, mais c'est une époque révolue, c'était merveilleux, mais c'était une époque spéciale et on n'est plus dans cette époque-là, on n'est plus dans ce monde-là.
Alors, ceux qui disent ça, en général, c'est ceux qui sont un petit peu embêtés parce que justement, le film fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous lisiez tout au début de l'émission une partie du programme, et effectivement, on a l'impression que ça aurait pu être écrit hier. Et par contre, non, la première réaction, c'est comment ça se fait qu'on ne nous ait pas raconté cette histoire-là ? Donc là, j'explique les intérêts. Et puis effectivement, oui, c'était avant, parce que ça arrangerait beaucoup de monde que ce soit avant cette histoire-là. Parce que la résistance chez les autres et la résistance dans le passé, c'est pas très dérangeant. Par contre, on se rend compte que les valeurs qui étaient portées dans ce programme, et la mise en application, c'est des valeurs qui sont intemporelles et qui ont toujours une résonance avec la société d'aujourd'hui. Regardez par exemple, ils avaient vécu la crise financière de 29 qui avait créé le marasme dans les années 30. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Première chose, la finance, on peut pas la laisser courir comme ça, sans règles. Donc on met des règles, on nationalise la finance. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait se poser ces questions-là sur les questions énergétiques.
On se les pose, mais enfin, on verra la réponse plus tard.
Oui, c'est ça. On attend.
Oui, on attend, on va voir.
Ouais, et sur les questions énergétiques, c'était quelque chose qui était trop important pour le laisser aux mains du privé. On nationalise, on crée EDF. Sur la question de la presse, tiens, les premiers amendements qui sont pris à la Libération, c'est une directive du Conseil national de la Résistance, comme quoi la presse doit absolument être séparée des pouvoirs d'argent. on voit où on en est aujourd'hui, quoi. Donc je trouve que c'est pour ça que ce programme-là, s'il intéresse aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une résonance dans tout ce qui nous environne. C'était finalement redonner de la place aux politiques et reprendre la main, quoi. Là où on avait tout laissé filer.
Mais c'était quand même à la suite de la boucherie la plus épouvantable de l'histoire de l'humanité, 50 millions de morts. Mmh. Et puis effectivement, des choses qui étaient devenues flagrantes, qu'on a, il faut le dire et le répéter, comment toutes les élites, comment tous les pouvoirs, comment toutes les puissances, c'était vautré, je pense, la puissance, oui, effectivement, de la finance et du... C'était complètement vautré.
Presse,
et de la presse également, tout ça c'était vautré. Donc on avait une leçon extraordinaire c'est qui ça. Était là, sous nos yeux.
C'est pour ça que les gens de droite, finalement, étaient pas tellement embêtés de signer un programme comme ça, parce qu'ils faisaient aussi ce constat-là, c'est-à-dire qu'ils avaient bien vu tout ce que ça avait signifié, se laisser aller. Et donc du coup, ça peut paraître surprenant que des partis de droite, à un moment donné, signent un programme qu'on pourrait qualifier d'extrême-gauche, mais en même temps, il y avait quand même, chez ces gens-là, une conscience de l'État, enfin du vivre-ensemble, qui est pas ce que la droite porte aujourd'hui.
Voilà où se cachent aujourd'hui ceux qui s'enrichissent de la sueur du peuple, ceux qui sabotent la renaissance de notre pays.
Les jours heureux, un film de Gilles Perret.
La collaboration rapporte. Qu'importe aux manias des houillères de livrer à Hitler le charbon de la France. Les dividendes augmentent.
Que les têtes des traîtres tombent, parce que c'est la justice.
Ce sont les devins d'ailes du comité des forges. Organisme de trahison la plus monstrueuse que la France ait jamais connue. Ce sont les deux pays Rimov, maîtres des charbonnages de France. Ils s'appellent aussi Louis Renault, qui avant de mourir a touché 6 milliards de francs pour ses 4 ans de fourniture d'armement aux ennemis de la France et de nos alliés. Ce sont encore les hauts et puissants seigneurs du Crédit Lyonnais, du comptoir d'escompte, de la Société Générale, de la Banque Nationale du Commerce et de l'Industrie, puisque ces quatre banques ont annoncé publiquement le 24 octobre 1942 leur mise à la disposition de l'industrie allemande.
Gilles Perret, je me disais tout à l'heure qu'on est en train de parler du CNR, de votre film « Les jours heureux » à Radio France. Radio France, radio de service public, qui est issue de cette histoire-là. 70 ans après, si on parle comme on le fait, on le doit en partie.
Bien sûr.
À ça. Et il y aura des auditeurs qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est? Vous recevez ce réalisateur, mais il a vraiment un engagement, c'est un type de gauche, peut-être même encore pire d'extrême gauche, et il n'y a pas un sarkozyste en face, vous n'en avez pas invité un autre, etc. C'est inadmissible dans le cadre du service public. J'attends cette observation-là.
Je ne me fais pas trop de soucis, voilà. La contrepartie. Ça, largement.
Mais la phrase importante là-dedans, c'est dans le cadre du service public. C'est-à-dire que c'est ça l'esprit du CNR. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui appartient à tous. Là, il y a quelque chose qui échappe bel et bien aux puissances de l'argent, à la force, aux griffes de l'argent en matière, dans une matière extrêmement importante et précieuse qui est l'information, la presse, la formation de l'opinion. Et c'est cette idée-là qui continue. L'exigence de cet auditeur qui va nous dire ça, c'est qu'il est inspiré. Il est inspiré par cet esprit-là, 70 ans après. Voilà des choses comme ça qui subsistent. C'est très difficile de savoir ce qui subsiste dans les profondeurs de l'esprit, de la mémoire des Français. Il faut faire très attention aux Français, parce que c'est souvent sous une surface lisse et qui dort des surprises qui se préparent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans quelle mesure aujourd'hui, le CNR et cette époque-là peut constituer un horizon? Qu'est-ce qu'on peut prendre là-dedans pour les luttes d'aujourd'hui, pour ceux que la transformation du monde passionne toujours, intéressent toujours, qui ont envie de s'en mêler, qui ont envie que ça ne se passe pas comme ça, à commencer par ceux qui, des années durant, sont venus et viennent sur le plateau des Glières pour commémorer ce moment. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, on trouve dans ces pages d'histoire de quoi inspirer les meilleurs.
Ben je crois que tout simplement, on retrouve dans ces pages-là la grande histoire de la gauche. Et donc, du coup, c'est comment le peuple, à travers ses représentants politiques, reprend la main et choisit qu'il y a certains secteurs qui ne doivent pas être soumis uniquement à la loi du marché. Donc là, ça questionne la société d'aujourd'hui. Mais au-delà de ça, sur le plan des personnes, je crois que le film, il est conçu aussi comme étant une formidable leçon d'optimisme. Parce que tous ces résistants, ils étaient quand même sacrément optimistes. Parce que dans une période aussi noire, vouloir construire ce monde meilleur et puis tenir un cap au péril de sa vie, c'est quand même formidable. Et moi, la grande leçon que je retire de ce film-là et de tous mes entretiens, c'est qu'à chaque fois, ils disent « quand on veut, on peut ». Là où en face, aujourd'hui, on a un discours fataliste qui est généralisé dans toute la classe politique, où on nous dit on n'y peut rien, c'est comme ça, il y a l'Europe, il y a les marchés financiers, il y a les agences de notation, et c'est la tenue du discours que me tient François Hollande lors de l'interview. Mm-hmm. Moi, je ne peux pas accepter qu'un président de la République ou les
responsables... Qu'est-ce que sa formule, il vous dit, j'ai le pouvoir?
Je suis au pouvoir pour pouvoir. Ah bon, d'accord. Bon, ben, quand on a dit ça, et quand je le bouscule un petit peu en lui disant mais vous pourriez être celui qui dit non et qui s'interpose et vous laisseriez une trace formidable dans l'histoire, tout ce qui dit oui, on peut laisser une trace formidable et partir. Mais moi, j'attends pas de ça d'un président de la République. Si son seul constat, c'est de dire qu'il a plus le pouvoir et qu'il est impuissant, je suis sorti de l'Élysée plutôt avec une envie de pleurer, quoi. Parce qu'on attend autre chose.
La configuration de l'économie aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec celle de l'après-guerre.
François Hollande.
Mais en même temps, les principes sur lesquels était fondée
les jours heureux,
la déclaration du Conseil national de la résistance se trouve encore
un film de Gilles Perret
profondément partagé par les Français. Nous pouvons aussi d'une autre manière, dans un autre contexte, intervenir pour que il puisse y avoir un équilibre entre le marché et l'intérêt général.
Gilles Perret, les jours heureux, quand l'utopie des résistants devint réalité. Toute une partie du film sont les anciens qui témoignent, qui racontent. C'est bouleversant, bien sûr.
Oui, parce que c'est un film, hein. Il y a aussi de l'émotion.
Il y a l'image, oui. On voit Stéphane Hessel, on voit des altercations entre eux. Mmh, entre eux, ils sont pas d'accord, notamment Stéphane Hessel apparaît comme un partisan de l'Europe. Alors que d'autres ne le sont pas, il y a des altercations. Sûr, on voit bien que le débat continue. Ils ont 85, 90 ans, mais la castagne continue, ils font la gueule, et ils sont quasiment fâchés, même fâchés, quoi. Ouais, c'est assez formidable. C'est jusqu'au bout, on lâchera rien. Là, eux peuvent dire on lâche rien.
Ah, oui, c'est une belle leçon, ça.
On a toute cette partie-là, et puis alors après, on voit nos politiques d'aujourd'hui, vous les filmez les uns après les autres, et là c'est effectivement... on attend celui ou celle qui relève le truc. Et effectivement, c'est assez déconcertant. Il y a un entretien avec Bayrou. Mm-hmm. Le courant n'est pas tellement passé entre
vous. Non, ça ne s'est pas bien passé. ils sont tous assez prompts à vouloir répondre sur les questions de résistance, parce que c'est plutôt glorifiant de s'exprimer sur ces questions-là. Sauf que, alors, ils ont une connaissance un petit peu de surface, parce qu'ils ont tous bien connu tel résistant, etc. Mais quand on rentre dans le vif et dans le contenu du programme, là, ça se passe assez mal, parce que c'est pas le tout de se référer à cette histoire-là, c'est savoir, eux, dans les actes, qu'est-ce qu'ils ont fait et en quoi ils s'estiment être légitimes de mentionner ce programme dans leur discours politique. Et là, dès qu'on gratte la couche de communication, et qu'on gratte un peu au-dessous du vernis, c'est soit le vide sidéral, soit l'affrontement, et notamment avec François Bayrou, qui est fondamental. On le voit dans cette interview, qui sort de ses gonds et qui n'est pas content du tout, parce qu'on voit que ce gars-là est vraiment quelqu'un de droite, libéral, parce que quand on lui parle de remettre des règles et de reprendre la main, ça l'énerve. Donc, faut pas qu'il nous fasse croire à chaque élection que c'est quelqu'un qui est centre-gauche, centre-droit, centre je sais pas quoi. Non, oui, c'est quelqu'un de droite et un libéral.
Elles existent, les règles.
On les a quand même très largement assouplies. Et c'est
non,
pour ça
je
aussi
ne,
que...
Non, je ne crois pas.
François Bayrou.
Les règles existent. Dieu sait que nous sommes un pays dans lequel il y a règles et règlements et lois et contrôles de toute nature.
Les jours heureux. Un film de Gilles Perret.
En même temps, on a quand même décidé de libéraliser la finance, on a décidé de libéraliser les marchés de l'énergie, les services publics. C'est quand même tout des règles qui existaient et qu'on a décidé, et vous avez accompagné ça aussi.
Excusez-moi, je ne sais pas quel monde vous voyez, mais en tout cas, je peux vous dire que le monde le moins encadré c'est la Chine communiste.
Mais à un moment donné, il va bien falloir faire quelque chose, sinon ça va mal finir, non, vous pensez pas
que c'est... Ah, je pense que c'est si on va dans votre sens que ça va très mal finir.
Le constat, quand je suis allé tous les rencontrer, c'est qu'ils sont plus habitués à répondre à ce type de questions qui, moi, me paraissent fondamentales. C'est-à-dire le rôle du politique. Moi, ce qui m'angoisse, c'est de se dire, mais on laisse filer les choses et ça risque de mal finir. Et quand on va sur ce champ-là, ils sont pas très à l'aise. Ils sont très à l'aise dans la politique politicienne. Mais quand on ne lâche rien sur les questions, sur le contenu, leur façon de répondre et leur agressivité est même assez inquiétante. C'est-à-dire que ils ont un peu déserté le temps de la réflexion politique. Et c'est eux qui seraient censés nous mettre sur le chemin de l'avenir, quoi. Et là, c'est inquiétant.
Et c'est pas le cas de tout le monde. Vous interrogez Dupont-Aignan, ouais, par exemple. Que ça nous plaise ou non, ces réponses sont intéressantes.
Oui, bien sûr. Alors, avec Dupont-Aignan, on parlait juste de la place de l'État, et c'est sûr que je pense qu'il ne faut pas parler de questions d'immigration et de nationalisme.
De sécurité
avec tout ça. Voilà. C'était assez intéressant parce que je lui dis, mais vous êtes en train de me dire les mêmes choses que Jean-Luc Mélenchon. Et il me dit, mais moi, j'ai pas de problème avec M. Mélenchon. Parce que moi, je m'estime plus à gauche sur les questions économiques que le Parti Socialiste. Par contre, je suis plus à droite que l'UMP, justement, sur les questions d'immigration, de sécurité, etc. Et donc, on se retrouve finalement avec toute une espèce de ventre mou assez fataliste, on n'y peut rien, c'est comme ça, il faut que les décisions se prennent au niveau mondial, au niveau intersidéral, enfin je sais pas, il faudrait que tout le monde soit d'accord en même temps pour pouvoir faire changer les choses, ce à quoi je ne crois pas du tout, et l'exemple des résistants qui étaient une minorité prouve bien le contraire.
Ça a été possible,
bien sûr,
ça a été possible, ça a été mis en œuvre, et il en reste quand même quelque
bien
chose.
Bien sûr, et donc tout ce ventre mou, il va du PS à l'UMP, aux centristes, etc.
Les jours heureux. Un film de Gilles Perret.
Nous devons nous inspirer de l'immense effort de reconstruction de la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Nous sommes à notre place, pas seuls, mais à notre place, les héritiers du Conseil National de la Résistance.
Ce rêve nous vient, pourquoi ne pas le dire, du Conseil National de la Résistance.
Il n'y a pas d'un côté les héritiers de la Révolution, du Front Populaire, du Conseil National de la Résistance.
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 Gilles Perret, vous devez ce film quand même, vous auriez pu être un peu plus honnête. En remerciant celui à qui vous devez tout ça, c'est quand même Nicolas Sarkozy.
C'est vrai.
Parce que sans lui, il n'y aurait pas eu l'Aiguillère, sans lui, il n'y aurait pas eu ce retour de tous ces anciens protagonistes et ces anciens acteurs sur le plateau là-bas. Vous êtes dans le coin, vous n'avez pas eu beaucoup de mérite à venir les filmer. Et tout ça, c'est grâce à Nicolas Sarkozy.
On le
dira jamais assez. Qui a eu l'idée de s'accaparer lui aussi cette mémoire à un certain moment. Après tout, il est un héritier du gaullisme aussi, pourquoi pas, Nicolas Sarkozy. Et donc, il a une certaine légitimité par rapport au CNR. Je dis ça parce que aujourd'hui, beaucoup sont consternés et déboussolés par la stratégie du Front National de Marine Le Pen, qui vient dérober un certain nombre de valeurs et de convictions de la gauche anticapitaliste, et la gauche anticapitaliste est complètement... Ah ben on nous a volé nos idées, on nous a volé...
Oui,
mais c'est une vieille coutume.
Bah, c'est pas nouveau, je veux dire, c'est pas nouveau. Qui sont surpris.
Et c'est ce qu'il a fait en venant au Glières.
Oui, bien sûr.
C'est ce que Sarkozy a fait en venant au Glières, en se déguisant en résistant, en se déguisant, mais le CNR, c'est nous, c'est notre inspiration, tout comme d'ailleurs comme Jaurès et comme tous les autres, c'est nous, quoi.
C'est, bien voilà. Sûr. C'est pour ça qu'il y a un gros travail de notre part à faire pour réattacher ces hommes aux valeurs qu'ils portaient et les réintégrer dans le contexte social de l'époque. Et pas uniquement utiliser des symboles comme a su le faire Nicolas Sarkozy et puis désincarner des valeurs qu'ils portaient. Donc nous, notre rôle aujourd'hui, c'est ça. Il faut lutter contre ça. Après, sur le Front National, enfin je veux dire le national-socialisme, ça a existé, c'est pas nouveau. Et ce qui est assez triste, c'est pour ça vous faites vos émissions, on essaye de faire nos films, c'est que il faut vraiment qu'on arrive à reconscientiser un petit peu les gens sur les questions politiques et sociales pour que ce ne soit plus des proies faciles aux premiers démagogues venus. Et on voit bien que pour le Front National aujourd'hui, c'est du pain béni, ils n'ont rien à faire, et ça tombe tout seul dans leur escarcelle.
Quelqu'un d'autre, Gilles Perret, que vous auriez pu remercier, c'est quand même Denis Kessler, qui lui a vraiment vendu la mèche, qui a dit qu'est-ce qu'il fallait faire de ce CNR, de cette mémoire du CNR et des suites, il fallait démonter ça.
Bien sûr.
C'était ça l'adversaire.
Et il a rendu aussi un fier service, parce que c'est vrai que Raymond Aubrac le dit dans le film avec son humour habituel, où il dit justement ça doit être un sous-marin de la gauche, parce qu'il nous a rendu un tel service en écrivant noir sur blanc en quoi consistaient les politiques néolibérales. C'est-à-dire qu'il fallait aujourd'hui déconstruire pierre par pierre tout l'édifice construit par le Conseil National de la Résistance. Alors Denis Kessler, c'est le vice-président du MEDEF, il est encore très influent, il est juste derrière M. Gattaz aujourd'hui, et il faut se remettre dans le contexte de l'époque où on est dans ce sarkozisme triomphant, et ça devient possible de dire des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ils estimaient que le champ était libre pour pouvoir porter cette idéologie-là, et effectivement, le constat, c'est bien que depuis l'arrivée du néolibéralisme, le plan du néolibéralisme, c'est de déconstruire tout ce qui a été mis en place à la libération. C'est pas, on a toujours l'impression que c'est arrivé comme ça par les forces du Saint-Esprit, par pragmatisme, non, ça correspond vraiment à une pensée qui a été rédigée dès la libération et qui a été portée par le patronat. Un des premiers représentants du syndicat du patronat, d'ailleurs, avait fait une déclaration où il disait on nous a pris tout ça en 44, on mettra le temps qu'il faudra, mais on le reprendra tout. Et donc, du coup, c'est pas étonnant que quelqu'un comme Denis Kessler fasse cette déclaration.
Mais c'est rare que ce soit aussi clair que
oui,
ça.
C'est ça, mais
ça a été le talent,
ça,
pour pas dire le génie, des idéologues du néolibéralisme, parce qu'il s'agit eux aussi d'une utopie.
Bien sûr.
S'agit aussi d'une idéologie. Il s'agit aussi d'une vision du monde, des valeurs, qui est très ancienne, qui est très ancienne. Sauf que ça n'a pas été présenté comme ils sont pas montés sur la scène des idées, sur la scène de l'idéologie. C'est-à-dire, mais on est désolé. Oui, on est d'accord avec vous. On aimerait bien. Nous aussi, on a cru à ça. Mais c'est simplement pas possible du tout. Il n'y a pas d'alternative. Vous voyez, il faut être pragmatique, il faut être réaliste. Il y a la mondialisation, il y a l'Europe, on n'est plus dans la même époque. Il y a tout un tas d'arguments qui sont autant d'arguments qui conduisent à l'impuissance, qui conduisent à la résignation, qui conduisent à vous allonger sur votre canapé à regarder la télé. Alors que derrière ça, il y a toujours aujourd'hui, une très puissante idéologie qui est en marche, qui est ancienne, et contre laquelle certains ont encore envie de lutter, j'en suis sûr, je l'espère, et qui seront bien heureux de voir ce film et de partager. Une dernière chose quand même, Gilles Perret, sur les conditions dans lesquelles vous travaillez, les conditions de production. Est-ce que le film va passer à la télé? Est-ce que vous êtes soutenu? Quelles sont les boîtes de production?
Alors sur cette opération-là, on a décidé de reprendre tout en direct, c'est-à-dire que c'est nous qui le distribuons avec une petite.
Nous, c'est qui?
Alors une petite boîte de production, Lavaca Production.
Et dans les montagnes là-bas.
Dans les montagnes toujours.
Les vaches,
oui. Mais des fois, on vient à Paris.
Oui, de temps en temps. Chaque fois qu'il y a un film, un nouveau film du centre de leur montagne.
C'est pas souvent. C'est un film qui devrait fonctionner pas trop mal. Il est dans une vingtaine de salles, 25 salles le premier mercredi. Après, il y a déjà beaucoup de cinémas qui ont prévu de le programmer. Et puis surtout, c'est les réseaux aussi associatifs, syndicaux, militants qui vont le faire vivre avec le bouche-à-oreille.
Et ça veut dire beaucoup de débats, c'est-à-dire
Ah oui, par contre, alors ce type de film, ils ont besoin d'être soutenus, d'organiser des débats, et on est énormément sollicités.
Alors,
il y a le monteur, le producteur, moi, il y a Léon Landini, FTP, MOI, qui est fil conducteur du film, quelques économistes, quelques historiens, et donc du coup, le but, c'est d'élargir un petit peu l'équipe aujourd'hui, parce que les sollicitations sur les 3-4 mois à venir, c'est assez impressionnant, le calendrier.
La télé vous a appelé en disant, on le diffuse telle date?
Pour moi, c'était quand même une grosse désillusion, c'est qu'il a été présenté à toutes les chaînes de télévision, les services documentaires, on était encore sous le règne du président de la République précédent, et il a été refusé par tout le monde. Moi, j'avais l'impression qu'on commençait quand même à parler de cette histoire-là, qu'il y avait le bouquin de Stéphane Hessel, Indignez-vous, et que ça allait être facile. Et en fait, non, pas du tout. Et donc, du coup, on a lancé une souscription, et en cours de souscription, en cours de production, il y a France 3, Ronald Pauverne, qui a accepté de prendre une version 52 minutes de ce film-là, donc qui a été diffusée au printemps, et une version qui risque de passer sur France 3 National très tard le soir, mais pour l'instant, nous n'avons pas la date. Voilà.
Merci. Merci, Gilles Perret.
Merci à vous pour l'accueil.
C'était
C'était Les Jours Heureux, un entretien de Daniel Mermet avec Gilles Perret. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Bruno Poncelet et Dimitri Gronoff, une émission réalisée par Jérôme Chélius et Guillaume Giraud, préparée avec Jonathan Duong, et c'est Stéphanie Fromentin qui attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour, qu'est-ce que vous faites devant le ministère de l'Éducation nationale ?
Eh bien, je suis ici parce que je suis professeur des écoles et je suis dans une situation difficile. Donc je vivais donc avec mon conjoint et mes enfants en Guyane. Mmh. Et mon époux a été muté.
Il a été muté où ?
Il a été muté à Clermont-Ferrand, à 7000 km.
Ah bah oui, ça fait loin.
Ah oui, ça c'est sûr. La seule possibilité pour moi, pour rester donc avec ma famille et mes enfants, c'était de me mettre en disponibilité.
Mais qu'est-ce qui fait votre mari ?
Il est fonctionnaire, donc il a été muté par obligation de service.
Il est fonctionnaire, c'est-à-dire ? Il est dans l'armée ?
Non, il est aux finances publiques. Il y a beaucoup de fonctionnaires en fait qui doivent muter régulièrement.
Ah, d'accord. Et alors il est aux finances publiques, alors on le mute à Clermont-Ferrand, mais vous qui êtes professeur des écoles, on vous mute pas ?
Ben voilà, donc moi mon poste il est à Saint-Laurent-du-Maroni, donc voilà, très très loin de Clermont-Ferrand.
Bonjour à tous et bienvenue 110 rue de Grenelle devant le ministère de l'Éducation nationale. Mais alors là, vous avez un carton, vous manifestez toute seule ?
Mes collègues doivent me rejoindre parce qu'il faut savoir qu'on est beaucoup dans mon cas. Il y a à peu près 1800 professeurs des écoles qui sont en attente de mutation et ils sont tous dans des situations très difficiles. Hein. Il n'y a pas que moi qui souffre.
Mais qu'est-ce qui vous propose l'Éducation nationale ?
Alors, l'éducation nationale a un système de mutation hein, qui fonctionne, on va dire, globalement pas mal. Mais parfois, il y a des gens qui sont laissés à côté, qui ne peuvent pas avoir les postes qu'ils veulent.
Ce que je comprends pas, là, c'est que c'est la rentrée des classes. Pourquoi vous êtes, si vous êtes professeur à Saint-Laurent-du-Maroni, vous devriez être là ?
Alors, donc moi j'ai préféré renoncer à mon travail. Donc en gros j'ai perdu mon travail pour rester avec ma famille. Donc j'ai choisi de ne plus travailler, de ne plus enseigner, alors que c'est un métier que j'aime et que je voudrais exercer, mais j'ai décidé de ne plus travailler pour rester près des miens. Et nous, ce qui nous fait mal au cœur, c'est que on est des professeurs sans classe, alors que dans les départements où on est, il y a plein d'enfants, plein d'élèves qui n'ont ni maître ni maîtresse.
Donc là, vous n'êtes pas payée.
Voilà, donc pour l'instant, je ne suis pas payée et je redeviens complètement dépendante financièrement de mon époux, ce qui est un peu dommage quand on a fait des études et qu'on a envie de travailler.
Et votre nom ?
Alors, moi, je suis Laure Boudjema.
Mais vous êtes combien dans ce cas-là ?
On est à peu près 1800 professeurs qui demandons à être mutés pour être rapprochés de notre conjoint ou de notre famille. Sur nos cartons, il y a écrit... pas de classe sans professeur et pas de professeur sans classe.
Et en gros, il y a marqué « Mutez-nous ».
Exactement, oui. J'appartiens à un collectif donc, qui s'appelle les « Mutez-nous » parce que on demande tout simplement une mutation pour être rapprochés de nos conjoints et nos familles.
Et alors, comment ça s'est passé quand vous êtes allé à Saint-Laurent-du-Maroni ? C'est parce que vous aviez envie d'aller là-bas ou c'est pareil, votre mari qui a été muté là-bas et puis vous avez demandé votre mutation ?
Alors, c'est mon époux au départ qui avait été muté là-bas et donc j'avais suivi. Mais disons qu'il y a des départements où c'est un peu difficile de sortir parce qu'il y a une pénurie d'enseignants.
Ah, donc c'est difficile de quitter la Guyane parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Par contre, à Clermont-Ferrand, il y a beaucoup d'enseignants.
À Clermont-Ferrand, effectivement, il y a, par rapport au nombre d'élèves, plus d'enseignants. Mais on voit en même temps que certains élèves ont fait leur rentrée sans maître ni maîtresse.
Votre mari, il est à Clermont-Ferrand, mais est-ce que vous êtes allé faire un tour dans les écoles pour voir s'il y avait des écoles où il n'y avait vraiment pas de professeur et il y avait des élèves qui attendaient un professeur ?
Dans le Puy-de-Dôme, dans l'école de mes enfants, il n'y a plus de professeur dans le RASED, par exemple. Donc pour les enfants en difficulté, je sais qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'aide spécifique parce qu'il n'y a pas de professeur spécialisé.
Et vous pourriez faire ce travail d'aide pour les élèves en difficulté ?
Oui, tout à fait. Oui, je pourrais tout à fait travailler avec des élèves en difficulté. Le souci aussi pour l'école primaire, c'est qu'on a vidé en fait les équipes de remplaçants. Dès qu'un professeur est malade, tout simplement, on n'a personne pour le remplacer. Et nous, ça, c'est des choses qu'on pourrait faire, c'est des tâches qu'on pourrait faire. Être remplaçant et intervenir ponctuellement dans les écoles quand on a besoin de nous, on est évidemment prêt à le faire.
Oui, c'est vous que c'est assez paradoxal d'avoir vos enfants dans une école et il n'y a personne pour assurer les cours de soutien et vous pourriez le faire.
Ah oui, c'est une situation assez ubuesque et tous les parents de l'école donc, que je connais sont stupéfaits quand ils apprennent que moi, je demande à travailler, que je veux travailler et qu'on ne me donne pas de poste.
Et vous avez un site ?
Oui, on a un site. Donc, notre site, c'est Les Mutez-nous. Alors, c'est vrai que moi, ma situation est très spécifique, très marquante. Mais je voudrais surtout pas qu'on oublie tous mes collègues qui sont peut-être un peu plus près de leur famille, mais qui restent quand même peut-être à 500 km ou 600 km de chez eux.
Et vous, c'est vous qui avez le record de France avec 7000 km.
Voilà, c'est ça.
Bon, vraiment, vous faites des histoires. 7000 km de votre famille, bon, bah, vous partez un peu plus tôt le matin et vous rentrez un peu plus tard le soir quand même. Hein.
Voilà, disons que si je pars avec le décalage horaire, je peux peut-être arriver la veille pour faire ma journée de cours.
Un peu de bonne volonté quand même, Laure.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui et on se retrouve demain.
GEcorénov, j'économise. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Si en hiver, vous payez d'importantes factures de chauffage pour avoir une maison où il fait toujours froid, eh bien, ça va changer. Aujourd'hui, vous pouvez faire financer jusqu'à 80% de vos travaux d'économie d'énergie grâce à des aides publiques. Pour réduire vos prochaines factures, allez sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou appelez le 0810 140 240, prix d'un appel local depuis un poste fixe.
GEcorénov, j'économise. 0810 140 240.
C'était un message du gouvernement.
France Inter présente Inside Llewyn Davis, le nouveau film de Joël et Ethan Coen, Grand Prix au Festival de Cannes, au cinéma le 6 novembre.
Hey Don, Llewyn Davis.
Hello, I've heard your music.
Avec Oscar Isaac, Karen Mulligan, John Goodman et Justin Timberlake.
What did you say you played?
Folk songs.
Folk songs. I thought you said you were a musician.
Dans les années 60, les déambulations de Llewyn Davis, musicien folk, du quartier de Greenwich Village à New York jusqu'à Chicago. Retrouvez Inside Llewyn Davis de Joël et Ethan Coen dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
À suivre, Frédéric Lodéon, bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité avec Laetitia Gaillet.
La manifestation des salariés de Tili-Sapco est en train de dégénérer. La grille de la sous-préfecture de Morlaix a été défoncée. Les 150 à 200 manifestants ont ainsi pu pénétrer dans la cour de la sous-préfecture. En milieu de journée, une opération escargot avait déjà bloqué la Nationale 112 au nord de la Bretagne. Tili-Sapco a annoncé la semaine dernière la fin de son activité de poulet à l'export pour janvier. Elle représente 90% de son chiffre d'affaires. Le président malien s'est engagé aujourd'hui à tout faire pour retrouver les assassin des deux journalistes de RFI. Ibrahim Boubacar Keïta l'a dit aujourd'hui aux membres de la direction de la radio qu'il a reçu à Bamako. Ibeka dit attendre les policiers français dans la soirée. Ils travailleront, dit-il, main dans la main avec leurs collègues maliens. Le président malien participera, lui, ce soir à une cérémonie en l'honneur de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Un hommage leur a été rendu à Paris ce midi à la maison de Radio France. Au Nigeria, on l'apprend aujourd'hui, 27 personnes ont été tuées jeudi dernier et 300 maisons incendiées par des membres du groupe islamiste Boko Haram. Les assaillants étaient environ 70 quand ils ont attaqué la localité de Bama, dans le nord du Nigeria. Comme l'était Facebook avant, l'introduction de Twitter en bourse jeudi est une des plus attendues de l'année. Le réseau social a annoncé aujourd'hui avoir revu ses prétentions à la hausse, notamment sur la fourchette de prix pour son introduction. Le prix de vente de ses actions sera donc entre 23 et 25 dollars, contre 17 à 20 prévus initialement. On en saura sans doute un peu plus demain sur la découverte de 1500 peintures dans un appartement allemand de Munich. Le parquet d'Augsbourg en Bavière doit donner une conférence de presse. Ces tableaux ont semble-t-il été volés avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. La valeur de ces peintures et croquis estampillés Picasso, Chagall ou encore Matisse dépasserait le milliard d'euros, dit-on. On ne sait pas s'ils seront restitués à leurs propriétaires. On sait juste que ces dessins et tableaux ont été découverts dans un appartement de Munich jonché d'ordures. Il appartenait à un certain Cornelius Gurlitt, un octogénaire qui accumulait de façon compulsive divers objets. Apparemment, il les aurait hérités de son père, collectionneur d'art, mort en 1956 dans un accident de voiture. Dans la tuerie de Chevaline, en Haute-Savoie, la justice a décidé aujourd'hui de diffuser donc le portrait robot du motard aperçu sur la scène du quadruple meurtre. Il portait le bouc et un casque très rare. Sa présence sur les lieux était connue depuis longtemps des enquêteurs, mais ils avaient choisi de ne pas diffuser son signalement pour se donner plus de chances de le confondre. Enfin, un conducteur suisse a été flashé à 223 km/h. Ça s'est passé hier sur une route nationale du Doubs limitée à 110 km/h. Le conducteur n'avait pas bu, mais son permis de conduire et sa voiture lui ont quand même été retirés. Il a dû s'acquitter aussi d'une amende de 750 euros et il sera convoqué en février prochain par le tribunal de police de Pontarlier. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Sur France Inter.
Et
J'ai pas mis fort l'ampli.
La musique s'écoute.
Vous voulez que je le montre un peu?
En live.
Hey, moi c'est bon au niveau.
À partir de 11h dans On va tous y passer.
Trois groupes en live par jour, on est très très fiers.
Merci beaucoup.
À 22h.
Dans Ouvert la nuit, tous les soirs, des musiciens branchent les guitares.
Et nous, on accorde la basse.
Toute l'actualité musicale en public,
tous les samedis à partir de 20h, au studio Charles Trenet,
avec Valy.
Et le dimanche à partir de 22h,
les jazzmen viennent jouer en direct
avec Elsa Boublil
dans Summertime.
La musique live sur France Inter, c'est aussi les concerts privés au studio 105 et les Trabendo Intercession pour découvrir sur scène les artistes de demain.
Tu peux me baisser un poil la 4, s'il te plaît.
Tous les programmes sur franceinter.fr. France Inter,
la voix est libre.
Bonjour Frédéric Loudéon.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Au menu, nouveautés, réédition aussi, quelquefois c'est très intéressant, par exemple de réentendre Vivaldi, encore Vivaldi me direz-vous, et oui, comme Stravinsky, qui l'accusait d'avoir écrit toujours le même concerto, mais ça n'est pas vrai. La preuve, c'est que ce concerto en la mineur qu'on va entendre pour deux violons, cordes et basses continues, tiré du recueil L'Estro Armonico, c'est-à-dire l'inspiration harmonique, et ben, il a été copié par Jean-Sébastien Bach, oui, transcrit pour l'orgue, ça n'est pas un mince compliment. Thank you. Le premier mouvement rapide, presque toujours d'ailleurs dans le concerto de Vivaldi, concerto en la mineure d'Antonio Vivaldi pour deux violons, cordes et basses continues, interprété par Fabio Biondi avec à ses côtés Adrian Cammoro, et le concerto italiano, tous dirigés par Rinaldo Alessandrini. Une réédition chez Tactus. Donc oui, quelquefois les masters changent de main et les enregistrements changent aussi de marque, et on les retrouve et on les admire toujours, bien sûr. Voici quelque chose de tout à fait nouveau. En revanche, donc, Franz Schubert, c'est le 14e quatuor dit La jeune fille et la mort. Alors vous me direz que ça n'est pas non plus une exception d'entendre La jeune fille et la mort d'après un Lied de Franz Schubert qui s'appelait comme ça, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille mourante qui se confie à la mort, qui est d'ailleurs personnage masculin, d'où l'idée de séduction parfois entre celle qui désire ou qui va quitter la vie et puis la mort qui va l'accueillir.